Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi aujourd'hui pour une émission qui sera entièrement dédiée au centenaire de la naissance de Boris Vian, puisque aujourd'hui samedi 7 mars, et bien patientons encore quelques jours, le 10 mars prochain, nous aurions pu fêter le centenaire de Boris Vian, ingénieur, trompettiste, poète, romancier, traducteur, parolier, chanteur, critique de jazz, dramaturge, producteur de disques, acteur, en tout cas un véritable touche-à-tout de génie. C'est aujourd'hui un comédien, metteur en scène, directeur de la troupe En Compagnie des Anges, mais pas que, accueilli d'ailleurs par la ville de Saint-Florentin. C'est avec un comédien que nous allons passer cette heure, car lui-même connaît bien l'œuvre de Boris Vian et Boris Vian sous toutes ses facettes, et je suis heureux de le retrouver. Bonjour Aldo Magno.
Bonjour.
Alors Aldo, je te présente. On avait, il y a quelques années, pour une autre émission sur Radion dans la ville de Lyon, je t'avais accueilli en janvier 2017, et puis en 2017 également, tu étais à mes côtés pour des lectures de lettres de poilus iconés envoyées à leur famille. On avait enregistré cette émission en son temps dans les studios de Radion à Nitry. Et je suis heureux de t'accueillir une fois de plus sur les banquettes moelleuses et confortables de Wagon Livre, la seule heure littéraire qui ne déraille jamais, pour évoquer Boris Vian. Alors, je te présente un petit peu Aldo, je l'ai dit, comédien, metteur en scène. Tu es né dans le Doubs, à Pontarlier, il y a un peu plus de 60 ans maintenant, pour situer l'homme et la culture et le vécu.
Oui, c'est cela, ça. Donc,
cela ne t'embête pas?
Non, je suis né le 7 mai 1959.
Voilà. Tu as, alors ça c'est un élément très important, parce que jeune homme, après avoir été dans un univers, dans l'univers de l'industrie, hein, tu as travaillé un temps dans l'industrie, et puis c'est le licenciement de cette entreprise qui t'a conduit sur le chemin du spectacle vivant, du théâtre, et tu es à Paris très jeune homme, et tu envisages de devenir comédien, de devenir acteur. Et ça a un lien avec Boris Vian, puisque pour intégrer cette école de théâtre, tu vas passer une audition au cours de laquelle tu interpréteras un texte de Boris Vian. La boucle est bouclée, Aldo. La retraite dans quelques mois et le début de ta carrière de comédien professionnel avec et aux côtés de ce comment dire, truculent personnage qu'est Boris Vian.
Ben, en fait, je connaissais Boris Vian avant donc, que de quitter donc, le monde industriel et l'usine Peugeot, cycle Peugeot-Mandeur dans le pays de Montbéliard. J'étais déjà, Vian m'accompagnait déjà, j'avais découvert ça vers 14-15 ans. Et j'avais toujours un bouquin avec moi, de Vian d'ailleurs, que j'amenais à l'usine. Je me débrouillais pour faire ma production le matin et l'après-midi, j'allais au bord du Doubs lire Boris Vian. Ça me permettait de sortir de cette condition et puis de m'évader, quoi. Voilà. Et donc depuis, Vian m'a accompagné comme ça.
Alors, je précise aussi que tu es un ami de Michael Lonsdale avec lequel tu as travaillé puisque tu as été son assistant il y a quelques années déjà pour un spectacle de théâtre qui a été consacré à la vie de Bernard de Clairvaux. Et nous-mêmes, nous nous sommes connus grâce à Boris Vian en 2008, l'année où tu avais joué avec toute une équipe à Tonnerre dans le cadre du festival Écrit et dit, un magnifique, presque spectacle total, ça s'appelait Tonnerre de Vian.
Oui, donc c'était pour le 60e anniversaire de sa mort. Non, ce n'était pas le 60e, c'était le 50e anniversaire. Je me trompe. C'était le 50e anniversaire.
En 2008, oui.
Ouais, c'était le 50e anniversaire de sa mort. Et donc, avec l'école, avec le conservatoire de musique de Tonnerre, avec l'association Tonnerre Culture et une compagnie amateur, on a décidé de monter un événement pour les 30 ans de Tonnerre Culture. Et ils m'ont demandé si j'avais pensé à un spectacle et je leur ai proposé donc Boris Vian, puisque c'était le 50e anniversaire de sa mort. Et donc, on était au moins une trentaine sur le plateau. Et donc, j'ai construit un spectacle avec des poésies, des textes, des chansons, et fait la mise en scène de ce spectacle que nous avons joué plusieurs fois dans Lyon. Voilà. Et donc là, c'est le retour. Donc, en 2019, c'était donc le 60e anniversaire de Boris Vian.
60e anniversaire de sa mort.
De sa mort. Hein? Parce que M. Boris Vian nous fait ce cadeau d'avoir deux anniversaires consécutifs, un de sa mort en 2019, l'autre de sa naissance cette année. Et donc, j'ai repris un peu des textes de Boris Vian, et j'ai décidé, pour le centième anniversaire, en 2020, de construire un spectacle en donnant des poésies, des chansons, et en racontant un peu sa vie. Voilà.
Et tu es seul en scène dans ce nouveau spectacle dont tu as donné une première interprétation en juin dernier lors du Salon du Livre de Saint-Florentin. Et ce spectacle s'intitule « Les 100 ans de Boris Vian ». Tu l'as joué en février dernier à Lille-sur-Serein. Et puis, prochain rendez-vous pour toi avec le public de Troyes dans l'Aube. Et puis, le 5 avril, dans cette ville de Tonnerre, et le 26 avril, tu seras au Café culturel à Villeneuve-les-Genêts, pas très loin de Toussy, toujours dans le département de Lyon, pour honorer le 100e anniversaire de la naissance de Boris Vian. Alors aujourd'hui, Aldo, peut-être un petit complément ?
Non, je n'ai rien à redire, c'est tout à fait ça.
Alors aujourd'hui, à nos auditrices et auditeurs, tu as rédigé un échange inventé de toutes pièces, mais reprenant de réelles citations de Boris Vian. Donc je vais jouer le journaliste et toi, tu vas te glisser dans la peau de Bison Ravi.
Voilà, c'est en fin de compte sur scène, outre le fait de dire des poésies de Boris Vian que j'ai choisies, hein, parce qu'il en a écrit énormément, et chanter des chansons de Boris Vian, il en a écrit plus de 500 hein, quand même, hein. Il a écrit plus de 500 chansons. Et donc, je raconte un peu, sous forme de questions-réponses, la vie de Boris Vian. Parce que je trouve que c'est intéressant que les gens aient un parcours. Hein. Donc, on parle, on voit un peu toutes les facettes, pas toutes les facettes, mais beaucoup de facettes de Boris Vian, qui nous montrent qui il était, comment il fonctionnait un peu, et quelles étaient ses spécificités, quoi, sa marque d'auteur, d'écrivain.
Alors ce que je propose, Aldo, c'est que l'on marque une première pause musicale parce que les chansons de Vian, c'est toi qui les interprèteras a cappella au cours de l'émission. On fait une première virgule musicale et ensuite nous aurons l'occasion de découvrir la vie et l'œuvre de Boris Vian. C'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion avec notre invité, comédien Aldo Magno. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Thank you.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radion pour ce nouveau numéro de Wagon Livre. Nous sommes en compagnie du metteur en scène et comédien Aldo Magno qui, cette année, avec un spectacle de théâtre intitulé sobrement « Les 100 ans de Boris Vian », va mener ce spectacle à différents endroits. Je rappelle à Tonnerre le dimanche 5 avril prochain à partir de 16h et il sera le 26 avril au Café Culturel à Villeneuve-les-Genêts. C'est pas très loin de Toussy. Alors, on vous l'a dit dans la première partie de ce wagon livre, Aldo Magno et moi-même, sur un dialogue construit par Aldo Magno qui s'est inspiré d'éléments puisé dans une remarquable biographie sous la plume de Valère Marie Marchand intitulée « Boris Vian, le sourire créateur », c'est aux éditions Écriture. En fait, Aldo, je vais me glisser, et je reste dans mon rôle de journaliste littéraire, tandis que toi, tu endosses le costume et la grande silhouette. Hein, je crois que Boris Vian était très grand, il faisait plus d'1m80, un grand garçon. Tu seras Boris Vian. Et effectivement, cet échange nous permet d'aborder, disons, la richesse du personnage et d'évoquer également son œuvre, même si nous aurons, au cours de l'émission, en fin d'émission, de revenir sur certaines grandes œuvres, L'écume des jours. Je sais que pour toi, c'est une lecture incontournable et marquante dans ta vie. Alors, on se lance pour ce petit dialogue. Monsieur, l'État civil vous a doté de deux prénoms pour le prix d'un. Vous vous appelez en effet Boris Vian. Vous portez en bandoulière le prénom de votre père et l'admiration de votre mère pour un certain Boris Godounov. Très vite, vous vous êtes surnommé autrement, Bison Ravi ou Bison du Ravi pour les intimes, Hugo H. Buisson, Michel Delaroche, Joseph Pignerol, Gédéon Moll pour les passionnés de jazz, Vernon Sullivan pour les amateurs de polar, Agénor Bouillon en duo avec Henri Salvador, Amélie de Lambineuse pour transgresser les genres, Boris Oviana pour présenter des 45 tours de votre choix et même Aimé d'amour pour le manifeste du Cocu. Comprendre, comité d'organisation des consommateurs et usagers. Monsieur Boris Vian, quelles sont les choses essentielles qui vous distinguent ?
D'abord, j'aime ce qui n'a pas de sens. Ça réveille les cellules du cerveau. Et puis, dire des idioties, car de nos jours où tout le monde réfléchit profondément, c'est le seul moyen de prouver qu'on a une pensée libre et indépendante. La fantaisie est un ingrédient nécessaire dans la vie. Comme par exemple, et pour résumer, nous ne sommes pas contre l'utilisation des hommes à gros bras, mais nous aimons aussi qu'ils aient de gros cerveaux.
Vous êtes né un 10 mars 1920, sous le signe du poisson volant, à Ville d'Avray, banlieue chic du sud-ouest de Paris. Très tôt, vous avez pris goût aux canulars, aux gags à rebondissement, aux intitulés à tiroir et aux pastiches que vous réalisez jusqu'au parfait trompe-l'œil. Donc, vous êtes ingénieur de formation, musicien par inclination, écarisseur en chef de la langue française que vous servez en poèmes, en chansons, en nouvelles, en romans et même en conte pour adultes consentants. Mélomane averti, vous avez, paraît-il, l'oreille absolue et vous vous mettez vite au diapason d'autrui. On vous prête des talents de disque-jockey, un goût certain pour les cocktails détonnants, une capacité à prêcher le faux pour savoir le vrai, un sens inné du sucré-salé, y compris dans l'épilogue de votre vie. Monsieur Vian, auriez-vous des choses à nous dire à propos de l'éducation et sur l'enseignement ?
À celle-là et à ceux-là, je dirais, c'est drôle comme les gens qui se croient instruits éprouvent le besoin de faire chier le monde. Ceci dit, le jour n'est pas loin. Si l'éducation suit la même voie, où l'élève le plus idiot de la classe sera d'office désigné pour faire cours à ses camarades, selon la méthode déjà en vigueur à la chambre. Bel exemple de nivellement par le vide. Cela simplifiera le problème de la main-d'œuvre non spécialisée.
À vos temps perdus, vous vous inventez, par plaisir, quelques rôles de composition. Joueur d'échecs à Ville d'Avray, peintre futuriste, rue du Faubourg-Poissonnière, sculpteur sur bois à la Cité Véron, apprenti garagiste à Colombes, trompettiste au Tabou, auteur, compositeur et interprète au Théâtre des Trois Baudets. Objecteur de conscience à la ville comme à la scène, vos dons d'ubiquité vous font prendre la clé de sol pour la clé des songes. Amateur de bourrimer, de calembours, de devinettes et d'analogies sélectives, vous vous définissez comme un fils spirituel d'Alfred Jarry, de Marcel Aimé, de William Faulkner et de Franz Kafka. Il est vrai que vous cultivez la dérision dès le plus jeune âge et que vous passez sans embâge d'une dimension à l'autre. On vous reproche vos lectures au sixième degré et vos formulations à teneur survitaminée. Les plaisanteries les plus courtes étant toujours les meilleures, vous cultivez à dessein l'art du bref. Nouvelliste et parolier, vous calibrez vos textes au millimètre près, vous répondez en quelques mots bien ciblés à la demande de vos commanditaires et vous déjouez l'opinion publique par une pirouette de dernière minute. Monsieur Bison Ravi, que dit la presse de vous et comment vos œuvres sont-elles reçues ?
La presse m'ignore ou elle crie au scandale. Pour moi, la préoccupation la plus haute de mon temps, c'est de dénoncer les menteurs et les escrocs du mot, les escrocs du verbe, les gens qui font de la démagogie verbale. Il y a actuellement dans les journaux, dans tout ce qu'on peut lire, partout, une inflation verbale qui tient du discours électoral dans ce qu'il a de pire. Regardez bien, les articles de fond ne remontent pas à la surface. Pourquoi passer systématiquement à côté des choses intéressantes ? Demandent les lecteurs. Parce que nous faisons un journal pour les concierges, répondent les piscopies, et qu'il y a plus de concierges que de gens intelligents. Possible, mais il y a aussi des concierges intelligents, ce n'est pas incompatible, et peut-être faudrait-il donner à l'autre fraction le goût de ce qu'elle ignore avant de lui proposer ce qu'elle admet faute d'autre chose. La presse française fait preuve d'une partialité révoltante et ne traite jamais que les mêmes sujets, les hommes politiques et les autres criminels. Sans compter que le gouvernement est là aussi, avec son interprétation bien personnelle de l'information objective. Exemple, les journaux sont pleins de cauchemars. On se tue du matin jusqu'au soir. La police est sur les dents, celle des autres évidemment. L'honnêteté se vend au marché noir. On annonce la hausse des rognons. On dénonce la peau sur les oignons. Soyons fermes, mes amis. Je ferai baisser les prix. Mais d'abord, donnez votre pognon. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer. C'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner. On est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Le jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert un beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler. On est venu faire une petite belote. On n'est pas là pour se faire assommer. On est là pour la fête à mon pote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre ta porte et sors des verres. Ne t'obstine pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si dur cette fois-là, qu'on a trépassé le soir même, et voilà, qu'on se retrouve au paradis vers minuit, Devant Monsieur Saint-Pierre, il y avait quelques élus qui rentraient. Mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire envoyer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous jetez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et là-bas c'était épatant, ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement.
Merci, cher Boris Vian. Alors, poursuivons notre échange, si vous le voulez bien. Traducteur de grands auteurs anglais et américains, vous avez été l'un des premiers à importer en France la science-fiction, le jazz, le roman noir et le slam. Vous avez toujours une coudée d'avance sur vos détracteurs, mais vous vous gardez bien d'en tirer un quelconque avantage. Quoi que vous fassiez, en effet, le scandale vous suit à la trace et on vous a qualifié de beau risque vivant. Et la confusion entre réalité et fiction a tendance à vous jouer des tours. Accusé de crime par procuration en raison de Lee Anderson, le rebelle de votre roman « J'irai cracher sur vos tombes », vous essuyez les plâtres d'une critique préformatée. Ennemi juré du stéréotype, vous faites parfois office d'amuseur public et suscitez à ce titre le bonheur des écotiers qui vous prêtent différentes projections sur la comète. À trop fréquenter Saint-Germain-des-Prés, on a fini par vous confondre avec votre légende. Vous souriez d'un sourire énigmatique, existentiel, un peu insaisissable, un sourire mythologique qui vous classe immédiatement du côté du sphinx et de la Joconde. Mona Lisa n'est pas étrangère à votre univers. Vous enchaînez, à vitesse grand V comme Vian, les records d'audience, vous surprenez, intriguez, séduisez sans lever le masque. Monsieur Vernon Sullivan, alias Boris Vian, dites-nous, quelle est votre vision sur le savoir et de l'intelligence en général ?
Le désir de la connaissance est le seul auquel s'offre une matière inépuisable, et il est développable. Le malheur avec un type intelligent, c'est qu'il n'est jamais assez intelligent pour ne pas se dire qu'il est le plus intelligent. Les gens intelligents n'ont jamais prétendu être plus nombreux que les autres, et c'est pourquoi le système de la majorité leur paraît, en certains cas, haïssable. Et pour finir, je dirais que si un type est prétentieux, c'est un faux intellectuel. Pour vous dire le fond de mon cœur, et ceci est dédié à moi, je vais être sincère, une fois n'est pas coutume. Voilà, je serai content quand on dira au téléphone, s'il y en a encore, quand on dira « V comme Vian », j'ai de la veine que mon nom ne commence pas par un Q, parce que Q comme Vian, ça me vexerait.
Boris Vian, vous dites avoir écrit des histoires que personne n'a songé à écrire. Lorsque vous écrivez, vous choisissez le meilleur angle d'attaque, de préférence à l'oblique, comme pour nous annoncer votre départ anticipé. Dès lors, plus rien ne vous arrête. Vous fixez votre encrier d'un air entendu et négligez du même coup toute tentative de repentir. Inséparable de votre pick-up portatif, de vos disques vinyles et de vos partitions préférées, vous écoutez du jazz à toute heure du jour et de la nuit. Vous swingez sur la langue française que vous agrémentez de trouvailles à point nommé. Vous prenez l'inspiration par la peau du cou dès qu'elle frappe à votre porte et vous négligez, avec tact, toutes les théories sur le pourquoi et le comment de votre métier. Très tôt, Boris Vian, vous avez eu la mort aux trousses, une dyspnée d'effort, vous diront les médecins. Un venin à retardement, comme l'atteste l'inquiétant nénuphar de l'écume des jours. Post-mortem, le collège de pataphysique honore votre mémoire. Ursula von Kübler et M. D. créent une fondation qui porte votre nom. Serge Gainsbourg vous place en tête de son panthéon personnel. Les humoristes vous pillent, la psychanalyse s'empare de votre inconscient, la Sorbonne vous consacre un colloque, la Pléiade vous guette, les rappeurs récupèrent vos marges de manœuvre. Alors, monsieur Boris Vian, serait-ce indiscret de vous demander ce que vous pensez des filles, de l'amour et du mariage ?
Tout d'abord, je dirais que si tout le monde avait le même goût, ce serait drôlement dur de se marier. Ensuite, je pense que pour sortir une fille, il vaut mieux une boîte où l'orchestre n'est pas trop bon. Sans ça, on l'écoute, on la néglige et on la loupe. Et ça, c'est grave. En conclusion, ne sachant à quel sein me vouer, j'ai choisi le plus confortable, le gauche de Marilyn Monroe. Le droit est un peu fatigué par la vie quotidienne qu'elle mène. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Agudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et du Dunlopillo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit, rentre chez ta mère, et l'on se garde tout. Agudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer, et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repasse limace, mon tabouret à glace, et mon chasse-filou, la tourniquette, à faire la vinaigrette, le ratatine ordure, et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore cruelle, on l'affiche dehors, pour confier son sort. Au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça. Jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça. Jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça. Pam, 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 pam. Jusqu'à la prochaine fois.
Les années passent si vite qu'on en oublie presque les 60 ans qui nous séparent de votre mort, Boris Vian. Le 23 juin 1959, rue Marbeuf, vous avez définitivement plié bagage à 39 ans et des poussières, comme vous l'aviez annoncé à maintes reprises, et ceci au début de la première projection du film de Michel Gast, adapté de votre roman du même nom, « J'irai cracher sur vos tombes ». Cher Boris Vian, quelle fut votre pensée ? À quel moment, comme le disait Queneau, êtes-vous devenu Boris Vian ? Libre à vous de dissiper ce malentendu qui semble s'être glissé entre vous et cet autre qui vous ressemble comme un frère. Le lecteur et le spectateur. Libre à vous de nous en dire davantage sur cette fiction qu'on appelle aussi une vie d'écrivain. Émission Wagon Livre consacrée au centenaire de la naissance de Boris Vian avec notre invité, metteur en scène et comédien Aldo Magno, que nous retrouvons dans quelques minutes. Le temps pour nous de faire une nouvelle pause musicale pour revenir ensuite sur les, on va dire, allez, les moments phares, et Dieu sait s'il y en a, les moments forts de la vie de Boris Vian. C'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Sans famille dans le métro.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Notre wagon livre aujourd'hui est consacré au centenaire de la naissance de Boris Vian, romancier, poète, dramaturge, ingénieur, trompettiste, auteur de chansons et de films, directeur artistique de maisons de disques, pataphysicien, roi de Saint-Germain-des-Prés. L'œuvre de Boris Vian est multiple. Rappelons aussi qu'il est l'inventeur de la roue élastique. Aldo Magno est en notre compagnie. Aldo Magno, je le rappelle, propose tout au long de cette année un spectacle théâtral où il est seul en scène pour rendre hommage à Boris Vian. Spectacle qui s'intitule sobrement Les 100 ans de Boris Vian. Aldo Magno, cher Aldo, est-ce que tu veux nous donner lecture de deux poèmes de Boris Vian, s'il te plaît?
Bien sûr, avec plaisir. La vie, c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher. Et puis, ça se gâte soudain. Ça vous fait mal. Et on y tient. Et on la soigne, et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie. Poisson d'avril. Un poisson d'avril est venu me raconter qu'on lui avait pris sa jolie corde à sauter. C'était un cheval qui l'emportait sur son cœur, le long du canal où valsaient les remorqueurs. Et alors un serpent s'est offert comme remplaçant. Le poisson, très content, est parti à travers champ. Il saute si haut qu'il s'est envolé dans l'air. Il saute si haut qu'il est retombé dans l'eau.
Merci Aldo Magno pour la lecture de ces deux poèmes de Boris Vian. Donc, bien sûr, nos auditeurs l'auront compris, cette année 2020 marque le centenaire de la naissance de Boris Vian. C'est dans quelques jours, très précisément le 10 mars prochain. Il faut rappeler effectivement que Vian avait très jeune des problèmes de santé, cette maladie de cœur. Vian est mort quand même à l'âge de 39 ans, Aldo, extraordinairement jeune, en ayant tout de même beaucoup profité de la vie. Il faut rappeler tout de même que finalement il a 25 ans en 1945, donc c'est l'époque aussi où il s'adonne à la trompette, qui n'est pas l'instrument idéal quand on a tout de même des problèmes cardiaques. Et c'est aussi un homme qui a joué tous les soirs dans différents clubs de Saint-Germain-des-Prés. Il faut préciser le club Saint-Germain ou le Tabou, le célèbre Tabou, 33 rue Dauphine. Rappelons que Boris Vian était vraiment un amateur de jazz, un critique de jazz, qu'il a accueilli à Paris Duke Ellington, Charlie Parker et Miles Davis. Grand inventeur de cocktails, on en a plus ou moins parlé au début de l'émission, un fou également de voiture, il n'a eu son permis de conduire qu'à l'âge de 27 ans, Aldo, fou de mécanique et de Grand Prix, alors il a possédé une BMW 6 cylindres, une Panhard, une Austin Healey, une Morgan Bleu et la fameuse Brasier 1911, intérieur cuir rouge. Bien sûr, on l'a dit, Boris Vian est un touche-à-tout de génie. En 1946, Aldo, il y a ce canular littéraire, puisque les éditions du Scorpion cherchent en fait à faire un coup commercial et en fait voudraient surtout des polars américains. C'est la grande vogue des polars américains qui commencent à connaître un véritable succès en France. Et Vian Eh bien, dites au directeur des éditions du Scorpion, t'inquiète pas, moi je vais t'en faire un polar américain, et sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, Boris Vian se déguise, bien sûr, se fait passer pour un auteur américain et produit ce texte en novembre 1946, « J'irai cracher sur vos tombes », qui lui a attiré beaucoup de problèmes, Aldo.
Oui, parce qu'en en fin de compte, on a retrouvé une femme morte et à côté de cette femme, il y avait donc un exemplaire du livre « J'irai cracher sur vos tombes » qui a été annoté par le tueur. Et donc, on a accusé Boris Vian d'être aussi quelque part l'investigateur, d'être un peu le coupable.
Assassin par procuration. Voilà,
assassin par procuration, dira la presse. Voilà, enfin dira la presse après, bien sûr, évidemment. Donc, c'est aussi cet ennui, un gros ennui pour lui. Il a fallu démêler cette histoire, etc. Et il en a beaucoup souffert. Et en fait, c'est ce qui l'amène aussi dans les dernières secondes de sa vie. Il meurt aussi à la projection de cette adaptation du roman. Donc, J'irai cracher sur vos tombes. Qu'il n'accepte pas d'ailleurs. L'adaptation de Michel Gast, il ne l'accepte pas. Il ne voulait déjà pas que son roman soit adapté. Et lorsqu'il assiste à la première projection, au bout de 5 minutes, il se lève, il crie « Ah non, pas ça !» Et à ce moment-là, il s'effondre.
Voilà. C'est le 23 juin. Hein. Meurt le 23 juin 1959, victime, dit-on, d'un œdème pulmonaire.
Il savait de toute façon qu'il allait mourir jeune. Il disait à Ursula, sa deuxième femme, « Je n'irai pas jusqu'à 40 ans ». Voilà, il savait, il vivait avec cette mort. Donc, il fallait aussi la braver en s'amusant, en plaisantant, en jouant de la musique, en vivant intensément, la nuit comme le jour. Il dormait très peu. Il vivait avec ses amis. Il composait des morceaux avec Henri Salvador. Son voisin de palier, c'était donc Jacques Prévert, un pataphysicien lui aussi. Et donc, tout se passait chez Boris Vian. Et il était donc toujours en train. Il fallait bien qu'il vive intensément puisque ses jours étaient comptés. Comme disait Prévert, chaque jour, il remettait sa mort au lendemain.
Alors Prévert, il faut dire qu'il a partagé la terrasse de son appartement au 6 bis cité Véron, derrière le Moulin Rouge, puisqu'en fait, les Vian, enfin Ursula, puisque la première femme c'est Michel Léglise, la seconde épouse c'est Ursula, une danseuse, eh bien les deux couples vivaient en voisins, les Vian et les Prévert étaient voisins, c'est amusant d'ailleurs.
Oui, absolument. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il Prévert, qui était un grand ami de Boris Vian, s'est fait introniser pataphysicien, lui aussi, un peu satrape. Et il faisait, donc à chaque fois, il y avait des réunions avec tous les pataphysiciens de l'époque. Et donc, ses enfants, les enfants de Prévert et les enfants de Boris Vian, l'enfant de Boris Vian jouait ensemble, etc. Tout se passait sur cette terrasse Cité Véron, qui existe encore aujourd'hui.
Et qui abrite la fondation Boris Vian.
Exactement. Hein,
rappelons d'ailleurs à nos auditrices et auditeurs, hein, il y a un site officiel Boris Vian, www.borisvian.fr, tout simplement. Concernant la pataphysique, Aldo, alors la pataphysique, tout le monde ne sait pas ce qu'est la pataphysique. On dit que c'est la science des solutions imaginaires, que le collège de pataphysique a été créé en 1948. Alors tu l'as dit, il y a parmi les membres Raymond Queneau, Jean Ferry, Pascal Piat, bien sûr Jacques Prévert, Max Ernst, hein, oui. un vieux du surréalisme, le baron Jean Mollet, qui d'ailleurs a été secrétaire de ce collège, enfin, qui était le président, le leader de ce collège, et qui avait été d'ailleurs le secrétaire de Guillaume Apollinaire et qui avait connu Alfred Jarry, parce que l'esprit de Jarry, le côté ubuesque est incontournable aussi.
Complètement, donc ouais, il était, comme il dit, hein, j'étais le fils spirituel d'Alfred Jarry quelque part.
Aldo, on a parlé des chansons, tu l'as dit précédemment, on dit un peu moins de 500 chansons, enfin c'est énorme, tu en as interprété quelques-unes aujourd'hui, mais il y a les Joyeux Bouchers, Le Petit Commerce, La Java des Bombes Atomiques, Complainte du Progrès, Cinématographe, Je suis snob. On n'est pas là pour se faire engueuler, que tu as chanté a cappella au cours de l'émission. Tu as les 45 tours, les vinyles de Vian.
J'en ai quelques-uns originaux, oui. J'ai donc Le Déserteur, J'ai aussi les Joyeux Bouchers. Voilà. J'ai aussi le morceau qui était un peu l'indicatif du tabou, hein, en jazz, quand il était encore en orchestre avec son frère, parce qu'il jouait aussi avec son frère.
Ah, il faut dire aussi que le tabou a été boudé ensuite un peu par Vian, parce que c'est pareil, il y avait des bagarres, et puis il y avait aussi la concurrence du Musette, parce que finalement ces cabarets, pour attirer les touristes, ont décidé d'accueillir plutôt des orchestres Musette que des jazzmen. Donc Vian avait fini par bouder le tabou pour aller vers d'autres clubs.
Oui, déjà ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'il a dû arrêter de jouer de la trompette, vu qu'il avait donc une malformation cardiaque. On lui a déconseillé de continuer, donc de jouer de la trompette, et donc il a dû arrêter. Son frère, qui était un antiquaire, mais bricoleur aussi, chez Vian, on est tous des bricoleurs, on est tous un peu ingénieurs, inventeurs, hein. Donc, il lui avait fait une guitare qui avait la forme d'une cithare avec deux manches, etc. Et donc, Vian avait appris à jouer de cet instrument en remplacement de sa trompette.
Aldo, j'aimerais qu'on s'arrête tout de même sur cette chanson très connue, Le Déserteur. Là, on est en 1954, c'est-à-dire au moment où débute la guerre en Indochine. C'est Mouloudji qui, pour la première fois, va chanter le déserteur. Là encore, scandale, il y a l'affaire Paul Faber, c'est un conseiller municipal de Paris, justement, qui veut faire interdire la chanson Le Déserteur.
D'autant plus que Mouloudji prévient Vian, il lui dit, écoute, dans la chanson, tu ne peux pas dire « prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer, il faut que tu changes ça ». Il disait, nous sommes des artistes, nous ne sommes pas des assassins ni des criminels. Mais donc Vian, après avoir écouté Mouloudji, décide de changer le texte du déserteur. Et donc c'est quand même grâce à Mouloudji qu'il a moins d'ennuis, que le déserteur passe un peu mieux. Puisque le texte après c'est « Dites à vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer ». Voilà.
Aldo, concernant toujours le monde de la chanson, bon, Vian a interprété ses chansons, hein. Il existe bien sûr des enregistrements que l'on peut écouter. Il faut dire aussi que nombreux ont été des célébrités françaises qui ont chanté Boris Vian. Je pense notamment à Brigitte Bardot qui avait fait des essais chez Fontana. Ça a été le cas aussi de Moustaki, de Guy Béard, de Christiane Legrand. En 66, Serge Reggiani enregistre des chansons de Vian. Et puis, ça, c'est une information que j'ai lue dans une des biographies de Vian que tu m'as prêtée. Jacques Higelin a démarré en enregistrant 12 des titres de Boris Vian. Incontournable, Boris Vian, dans le monde de la chanson.
Oui, et puis Serge Gainsbourg, qui au départ se vouait à une carrière de... Enfin, une carrière. Voulait être peintre. Et un jour, a vu Vian sur scène, a écouté ses textes, et dès lors, il a décidé de ne plus peindre, mais de se lancer dans la chanson. Donc, c'est aussi très important pour Gainsbourg, l'image et les souvenirs de cet homme, Boris Vian. Je pense qu'il a bouleversé un peu sa vie et il l'a mis un peu sur les voies de la chanson.
Et j'ajouterai, Aldo, que Boris Vian a été directeur artistique chez Fontana, qui était une sous-marque de Philips. Et il est vrai qu'il avait repéré des gens qui ensuite ont fait grande carrière, notamment Serge Gainsbourg ou Zizi Jeanmaire. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas tout dire de Boris Vian dans ce wagon-livre aujourd'hui, Aldo. On marque une dernière pause musicale et puis ensuite on parle de L'écume des jours, parce que c'est un roman incontournable que les jeunes gens, enfin tout le monde, mais que les jeunes gens surtout doivent lire tant l'univers est extraordinairement cocasse. Mais c'est peut-être aussi un des plus beaux romans d'amour de notre littérature française.
Je pense que Queneau le définissait comme ça d'ailleurs. Il disait c'est le plus beau roman d'amour contemporain.
Alors on marque une dernière pause musicale et on se retrouve avec toi, Aldo Magno, qui est notre invité aujourd'hui pour cette émission consacrée au centenaire de la naissance de Boris Vian.
Midnight, blue, so low.
Retour à bord de notre wagon livre consacré aujourd'hui au centenaire de la naissance de Boris Vian. En avril 47, Aldo, puisque Aldo Magno, comédien, nous accompagne aujourd'hui pour cette émission et hommage, Aldo, l'écume des jours, rédigé en 3 mois, de mars à mai 46, et paru en avril 47. On le disait juste avant la pause musicale, c'est un roman incontournable dans l'œuvre de Vian et aussi dans le patrimoine littéraire français.
Oui, absolument. Moi, quand j'ai découvert ce texte, j'ai été bouleversé, je pense, comme la plupart des gens. Je crois que c'est un texte qu'on ne peut pas oublier, qui nous amène dans une autre dimension de la vie, de l'amour. Et la façon dont Vian se prête à cette espèce de surréalisme, de science-fiction presque, où on voit quelqu'un malade, donc Chloé, qui a besoin de fleurs pour subsister, pour survivre, et cet homme, donc, Colin, qui est obligé de travailler pour lui offrir des fleurs, et malgré tout, toutes les fleurs du monde qui pourraient lui offrir, lui donner à respirer afin qu'elle continue de vivre n'y feront rien, la mort viendra malgré tout. Donc tout ce chemin, cette façon dont il a construit, et il y a des rapports au travail, il y a des rapports à plein de choses. Vian, c'est quelqu'un qui avait un objectif principal dans une thématique, dans un livre ou dans un autre, et qui mettait plein d'ingrédients. Il fallait qu'il mette plein d'ingrédients, un peu comme dans sa vie. Il était homme à tout faire, et dans ses romans, il y avait plein de choses différentes, mais toujours gardant le cap principal qui était là, donc l'amour que l'on donne, que l'on voue à quelqu'un.
L'écume des jours, hein, un hymne à l'adolescence, riche aussi de manifestations surnaturelles. Il y a ces deux petites souris aux moustaches noires qui parlent. Et puis, il y a les pédérastes d'honneur. Enfin, il y a Jean-Saul Partre, bien sûr.
Et puis, c'est le passage dans l'église, là, où il y a le curé qui les marie. Et ça, c'est très drôle et très croustillant. Oui, il n'en rate pas une, parce que même dans le malheur... Mais ça, c'est toute sa vie. Il vivait avec cette mort au jour le jour. Il savait qu'elle était là, qu'elle pouvait intervenir d'une seconde ou d'une minute à l'autre, ou d'un jour à l'autre. Et en même temps, il fallait délirer, quoi. Il était dans la démesure.
Le piano cocktail, notamment.
Voilà. Un peu comme les poésies que j'ai lues tout à l'heure, quoi. D'un côté, c'est très jeune, naïf.
Il y a cette anguille qui vient tous les jours dans le lavabo de Colin pour par la conduite d'eau froide. Enfin, c'est complètement ubuesque, délirant, cocasse, angoissant aussi, féerique. Oui. Parce que c'est tout de même le drame d'une jeune fille qui, comme Vian, a un grave problème de santé, puisqu'elle a un nénuphar qui lui pousse dans les poumons.
Oui, c'est qu'il essaie de trouver une solution à Chloé, et peut-être c'était peut-être la solution qu'il se cherchait à lui. Mais à cette époque-là, on ne pouvait rien faire, la médecine ne pouvait rien faire, ne pouvait pas intervenir pour une maladie, pour cette dyspnée d'effort. Comme disaient les médecins, ils ne pouvaient rien faire. Quoi.
Et puis cette conférence de Jean-Saul Partre, où il présente au public des échantillons de vomi empaillé, enfin, c'est complètement délirant,
oui.
Ce roman.
Je crois qu'il avait une petite dent, comme dirait l'autre. La vie, c'est comme une dent, mais là, il avait une dent contre Jean-Paul Sartre, Jean-Saul Partre. Il l'a appelé comme ça, il l'avait aussi un peu mauvaise, parce que Jean-Paul Sartre lui a aussi... pas pris, mais est parti avec sa première femme. Hein, il y a ça aussi. Déjà, il n'était pas d'accord sur l'écriture réaliste. Hein. Il n'était pas très chaud à écrire. Il dit, à quoi ça sert d'écrire ce que l'on voit ? Écrivons autre chose. Mettons une plus-value à ce qu'on voit. Allons ailleurs. Pour lui, l'écriture, c'était synonyme de voyage, de faire autre chose.
Alors, Boris Vian était ingénieur, trompettiste, poète, romancier, traducteur, parolier, chanteur, critique de jazz, dramaturge, producteur de disques, acteur. Et pour la raison pour laquelle on ne peut pas tout dire de Boris Vian dans notre heure d'émission, il a aussi, alors là Aldo tu le sais bien, en tant que metteur en scène et comédien, il s'est aussi adonné au théâtre. Alors mentionnons en 52 Cinémassacre, qui en fait est un pastiche un peu du cinéma de l'époque, hein. C'est c'est un spectacle à sketch qui d'ailleurs a fait salle comble durant près de 400 représentations, hein, que ce soit à la Rose Rouge ou au théâtre des Trois Baudets. Il y a l'écarissage pour tous. Là, Vian, on retrouve le côté un peu le déserteur. Hein. Oui, pièce engagée, ouais. Pièce anti-militariste.
Anarchiste.
Vaudeville anarchiste. Hein, en fait, ça aussi, Aldo, hein, l'anarchisme de Vian sur un sujet scandaleux, parfaitement ubuesque. Il y a aussi, alors en 57, mais cette pièce ne sera jouée pour la première fois qu'en 59, Les bâtisseurs d'empire. C'est la dernière pièce d'ailleurs de Vian. Au cours de laquelle une famille vit dans des appartements dont ils doivent déménager régulièrement pour des appartements de plus en, enfin qui se rétrécissent de plus en plus. Et puis il y a cet inquiétant personnage qui s'appelle le Schmurtz, qui est une figure anonyme et masquée, parfois entourée de bandelettes dans certaines représentations. Personnage qui est un peu le souffre-douleur de cette famille. On le frappe, on l'insulte. Un théâtre de l'absurde. Enfin, on est assez proche du théâtre de l'époque, des années 50, de l'absurde, Ionesco. Beckett.
Absolument, on est dans cette époque de l'absurde. Mais derrière l'absurdité, il y a aussi toute cette vérité de cette société qui maltraite, qui fait du mal. Et Vian est très conscient de ça. Donc, il dénonce, toujours des fois en s'amusant, les travers de cette société. Je pense qu'il c'est, il faut pas l'oublier, Vian est un visionnaire aussi. Il voit très bien où on va aller. Il se sert de la science-fiction, mais quand on regarde aujourd'hui, toute cette science-fiction n'est que pure réalité, n'est que pure vérité. Donc, c'est un visionnaire tout en étant un peu anarchiste.
Un grand merci, Aldo Magno, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce wagon-livre consacré au centenaire de la naissance de Boris Vian. Vous retrouvez toutes les références des livres qui nous ont servi à préparer cette émission sur le site www.yannickpetit.fr, de même que vous retrouvez cette émission. Vous pourrez retrouver Aldo Magno pour son spectacle « Les 100 ans de Boris Vian » le 5 avril prochain à Tonnerre. Et puis le 26 avril, du côté de Toussy, Aldo, c'est dans le village de
Villeneuve-les-Genêts. Voilà. Un café culturel.
Voilà. Les 100 ans de Boris Vian. Merci Aldo d'avoir passé cette heure avec nous. Merci pour les chansons que tu as interprétées, pour les lectures des poèmes. À vous, auditrices et auditeurs, de poursuivre les lectures chez vous en vous procurant l'œuvre assez volumineuse de Boris Vian et qui mérite d'être redécouverte.
Voilà, pour parler de Boris Vian, il faudrait comme lui avoir 39 ans. Avant de nous quitter, je voulais remercier aussi Yannick de m'avoir invité à cette émission pour le centenaire de Boris Vian. Remercier Radion aussi, mais surtout, remercier Boris Vian qui m'a fait et qui nous a fait don de son univers. Pour ma part, fils d'émigré italien, né en mai 59, un mois avant son départ, je tiens à le remercier de m'avoir amené à la littérature, au jazz, à la poésie et au théâtre. Donc, comme le disait son ami Prévert, à bientôt ou tard. Merci Boris Vian.
Merci Aldo Magno. Prochain rendez-vous de Wagon Livre, samedi 14 mars prochain, toujours à partir de 11h sur Radion. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.